Oui. Alors très rapidement, juste un petit rappel des études récentes. Alors c'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est les études les plus récentes qui ont été réalisées sur le sujet. L'idée, c'est on a mis des liens hypertextes qui vous permettront, quand vous aurez récupéré donc cette présentation, d'aller récupérer toutes ces études sur Internet pour ceux qui auraient envie de récupérer tous ces éléments-là. Donc on va pas, je redis, hein, c'est pas exhaustif. L'idée, c'était de voilà, on part pas de zéro. Ça fait quand même un certain temps qu'on travaille sur ces sujets-là. Et puis la dernière étude en date, c'est justement l'étude de Louis qui a comparé donc les différents types de modulation de DAF. Et je vais te laisser tout de suite la parole pour nous présenter ce qui a été présenté donc aux dernières journées de l'information médicale et du contrôle de gestion en psychiatrie à Poitiers.
Merci Gaël. Bonjour à tous. Donc voilà, on va essayer de rentrer sur un domaine un peu technique, et je pense que c'est important pour comprendre les enjeux de ce qu'on peut proposer par après, de repartir là-dessus. Alors, donc c'est en termes de méthodologie et de périmètre de l'étude, donc c'est on a demandé un établissement par région pour nous documenter sur ce qui se passait dans sa région. Donc on avait eu 18 réponses, 9 ARS en conclusion ne pratiquent aucune modulation. Une ARS propose aux établissements de leur proposer des règles de répartition. Une ARS propose une modulation mais ne l'a pas appliquée. Et enfin, 7 ARS pratiquent une modulation mais à des degrés très divers comme on va voir. Et donc je vais passer en revue ces propositions, ces applications de modulation de ces 7 ARS. Au début j'irai un peu plus lentement, mais après je pense que comprenant tout doucement les méthodologies, je pourrai aller un peu plus vite. Alors pour l'Aquitaine d'abord, c'est aussi un modèle très détaillé, donc c'est intéressant de s'y attacher. La volonté, l'objectif de l'ARS était de se lancer dans un travail de rééquilibrage de la DAF psychiatrique. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait des problèmes de rééquilibrage au niveau régional, mais aussi en infra-régional. Et donc ce travail s'est fait dans la continuité d'une démarche de comparaison des moyens psychiatriques qui était déjà ancienne, puisque c'est dès 2000 qu'ils avaient commencé à travailler en définissant une espèce d'indice composite d'activité, qui est un peu le modèle du point ISA d'ailleurs, qui avait été utilisé en psychiatrie. 10 ans plus tard, ils ont réactivé ce calcul de l'indice composite d'activité et avec une diffusion dès début 2013 à tous les établissements des résultats de ce calcul, où ils avaient calculé deux indices composites d'activité, un pour les adultes et l'autre pour l'activité infanto-juvénile. Cela a conduit à mettre en place un groupe de travail pour améliorer la méthode. Et enfin, il y a une volonté du DG d'ARS qui s'est exprimée fin 2013 pour réorienter en partie l'allocation des ressources sur base d'une comparaison objectivée des moyens des établissements. Et cela a conduit à accélérer les travaux du groupe et celui-ci s'est donc réuni plusieurs fois en 2013. Alors, la méthodologie est la suivante. Donc, en préalable, ils ont, sur les 24 établissements composant la région, présents sur la région, ils les ont catégorisés en 5 groupes. Un groupe qui est les établissements accueillant plus particulièrement des patients long cours, un deuxième groupe qui sont les établissements spécialisés en psychiatrie, un troisième groupe où il y a des activités de psychiatrie au sein d'hôpitaux généraux sectorisés, le quatrième groupe c'est les établissements à activités ambulatoires ou alternatives seules, et enfin le cinquième groupe c'est les activités au sein d'hôpitaux généraux sans sectorisation. Les 3 critères de comparaison qui ont été choisis sont l'activité, la file active et la population. Nous allons voir comment c'était appliqué. Alors, le premier critère, ils ont défini ce qu'ils appellent un indice de financement d'activité, donc l'IFA. Et pour arriver à cet IFA, il y a une série de travaux intermédiaires qui ont été faits, et notamment, ils sont partis de l'utilisation du retraitement comptable de 2012. Où ils ont calculé un coefficient de pondération pour chacune des 28 activités répertoriées au sein donc des établissements à partir du coût moyen constaté dans le retraitement comptable, et ce pour chaque groupe. Donc, c'est un travail important. Et quand les données régionales n'étaient pas représentatives, ils ont pris les données nationales. Donc l'activité adulte, par exemple, en hospitalisation complète, représente le coefficient 1, c'est le point de comparaison, d'articulation pour les autres pondérations. Et par exemple, pour l'hospitalisation du jour adulte, bah, ils ont calculé le coefficient 0,7 ou pour un séjour en UMD 1,7. Donc ça permet de faire une grille de comparaison et donc de pouvoir, en les pondérant, les additionner. L'utilisation du PMSI, donc d'une part, calcul des coefficients de pondération pour chacun des types d'activités. Deuxième, c'est évidemment application de ces coefficients à l'activité qui est issue du RIMP, avec quelques corrections et adaptations, puisque dans ce traitement, ils n'ont repris que les actes réalisés en présence des patients. Donc, ils ont enlevé ce qu'on appelle les réunions et démarches. Ils ont fait aussi un traitement distinct pour les USIP, avec aussi une limite d'âge à 18 ans et non 16 ans, permettant d'aboutir à une activité 2012 pondérée. Ils ont alors, ça nous permettra d'avoir le dénominateur, ils ont alors fait une correction de la DAF en neutralisant une série de financements qui ne concernent pas l'activité, comme tout ce qui concerne les financements d'investissement ou tout ce qui est financement de certaines missions spécifiques. Donc ça a été évidemment enlevé au niveau de la DAF. Par contre, ils ont rajouté les recettes du titre 2, puisque c'était des moyens affectés à l'activité. Et donc, ça leur permet de calculer ce fameux indice de financement d'activité en prenant cette DAF activité, en laquelle on rajoute les recettes T2 et on divise par cette activité pondérée. Donc, c'est chacune des activités relevant du RIMP multipliée par son coefficient de pondération. Et donc, l'IFA de chaque établissement est donc comparé à l'IFA moyen de sa catégorie. Et donc, l'écart entre les deux permet de construire des hypothèses de modulation. Même démarche cette fois-ci au niveau de la file active, puisque on va mesurer un indice de financement par patient. Donc, correction nécessaire pour aboutir à cet indice, c'est évidemment la pondération de la file active issue du RIMP, où ils vont enlever les patients dont le nombre d'actes est inférieur à 3. Donc, on voit dans d'autres modèles où on enlève les monoconsultants, ici c'est les patients qu'on a vus que 2 fois ou moins. Cet indice de financement par patient, c'est donc toujours la même DAF d'activité plus les recettes, divisé par la file active pondérée telle qu'elle vient d'être exprimée. Donc cet indice permet de nouveau de le comparer par rapport à un indice de financement par patient moyen et donc de servir à nouveau de construction pour des hypothèses de modulation. Troisième critère, c'est la population. Alors elle est mesurée par rapport à un ratio dépenses assurance maladie par habitant, par capita, comme on dit, mais avec quelques corrections. Donc, les dépenses, d'abord, par habitant, c'est la DAF, plus la masse tarifaire des cliniques, plus les dépenses de soins de ville en consultation de psychiatrie, et les corrections nécessaires pour aboutir à cet indice, évidemment, c'est la correction de la DAF dans laquelle on prend en compte la proportion importante de recrutement hors département pour certains établissements. Pour tous les établissements, une correction de la DAF en proportion des taux de patients issus du département et enfin une prise en compte des financements des activités régionales, SMPR et UMD, pour avoir une DAF retraitée pour ces deux établissements concernés. L'écart entre la DAF actuelle des établissements et leur DAF cible est alors calculé et donc ça donne, vous voyez, des écarts par rapport à des à la moyenne régionale, donc qui apparaît à ce niveau-là dans le tableau. Les déterminants de modulation pour 2004, c'est donc une modulation intra-groupe, mais également intergroupe. Donc, premier critère, sur le critère donc, de l'indice de financement à l'activité, si l'écart est inférieur, on va réduire de 5% la DAF par rapport aux établissements réputés surdotés. Et ceux qui sont réputés sous-dotés, on va augmenter, vous voyez, de 3% de cet écart. Les modulations intergroupes, une réduction du surfinancement des centres hospitaliers sectorisés par rapport aux CHS de 20% à 15%. Donc c'est une réduction pour ceux qui sont surfinancés. Pour les critères prenant l'indice de financement par patient, c'est moins 1% de l'écart entre la DAF actuelle et la DAF cible, donc pour les établissements réputés surdotés. Et pour ceux qui sont réputés sous-dotés, c'est 0,5% de l'écart entre la DAF de l'établissement et la DAF cible. Pour le critère population, c'est moins 1% de l'écart entre la DAF actuelle et la DAF cible pour les établissements des territoires réputés surdotés. Rien pour ceux qui sont en dessous. Tous ces résultats sont arrondis à 10 000 euros. Et au final, le rééquilibrage pour 2014 a porté sur un volume de 1,460 millions d'euros, soit 0,32% de la DAF. Donc c'était une portion faible qui était appliquée, dont 710 000 euros, ça aussi c'est intéressant, donc ils en ont profité pour récupérer une petite enveloppe qui permet de financer des nouveaux projets. Voilà. Ceci montre les corrections, les modulations qui sont passées par groupe. Donc on voit que tous les groupes ont eu des plus et des moins. Il n'y a pas un groupe qui était bénéficiaire par rapport aux autres. Deuxième région, Midi-Pyrénées, la voisine. Les principes de redistribution, effectif redistributif de la modulation limitée à 2% de l'enveloppe, donc c'est un peu plus que la précédente, pour la première année en application en 2014. Pas de position pour les années suivantes. Une DAF cible globale est calculée à partir des 4 DAF cibles auxquelles sont adossés des pourcentages différents, la DAF globale étant la somme de ces évidemment 4 DAF cibles pondérées que l'on retrouve, l'activité pour 35%, la file active aussi pour 35%, les besoins populationnels 20% et l'étendue du secteur pour 10%. Donc dans ces 4 DAF cibles pour l'activité, c'est la même méthode, c'est calculé en valorisant des coûts moyens régionaux des séjours temps complet, venu, etc., acte ambulatoire, en adultes et en infanto-juvénile. Pour la file active, elle est calculée en valorisant le coût moyen régional de la file temps complet, temps partiel et ambulatoire. Donc il y a séparation des files actives. Toujours séparation adulte, infanto, juvénile. Et enfin, pour les besoins populationnels, elle est calculée à partir du pourcentage de la population adulte et enfant prise en charge par le secteur public, appliqué au total de la population et modulée par un taux de précarité INSEE dans lequel on va retrouver des données sur les minima sociaux, l'accès aux soins, les bas revenus. Et cette DAF cible est donc obtenue en appliquant le coût moyen par habitant au total de la populationnelle obtenue à l'étape précédente. Donc il y a une correction de ces facteurs de précarité. Et enfin, la DAF cible étendue du secteur, calculée à partir de la superficie des secteurs adultes et enfants, pondéré du pourcentage donc des dépenses régionales de psychiatrie, le coût moyen au kilomètre carré est donc appliqué aux superficies obtenues. Donc voilà un peu les quatre DAF cibles et la manière dont elles sont calculées. Donc en valorisation, je vais aller plus vite, donc son prix, c'est le nombre de séjours temps complet, le nombre de venus et de venus en temps partiel et le nombre d'actes pour l'ambulatoire. Pour chacune, les données sont issues donc du recueil RIMPE comme pour l'Aquitaine. À partir de ces données, le coût moyen régional est calculé pour les temps complets, temps partiel et ambulatoire. Ici, ils ne le font pas pour l'ensemble, mais par grande catégorie. Les coûts moyens à partir des retraitements RTC sont évidemment l'origine de ces bases de calcul. Pour la valorisation à l'activité, ce sont toujours les données issues du RIMPE qui sont utilisées, même si parfois, dans les éléments de discussion, on les considère comme peu fiables. Donc il y a eu beaucoup de discussions là-dessus pour essayer notamment au niveau d'un établissement dont un tiers de la patientèle fait des séjours à zéro jour. Donc c'était recalculé. Donc vous voyez, chaque fois, il y a eu des débats techniques pour corriger un peu les situations. Pour la file active, il distingue, comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois files actives, temps complet, temps partiel et ambulatoire, distingue aussi enfants et adultes. Un coût moyen régional de la file active est donc calculé à partir du retraitement comptable et donc de la file active issue du PMSI. Le coût moyen est donc multiplié, cette fois-ci, par le nombre de patients par type de prise en charge pour donner une DAF cible file active. Pour la population, c'est la population recensée en 2010, les distinctions 18 ans, les patients pris en charge par les établissements, identifiés cette fois-ci en fonction de leur domicile qui est pris en compte. Donc une différenciation selon la prise en charge secteur public ou secteur privé lucratif non sectorisé pour minoriser la population desservie des établissements de santé sous DAF du nombre des patients soignés en clinique privée commerciale. C'est évidemment important d'apporter cette correction. et enfin un redressement statistique qui est effectué, dans lequel on intègre les taux de fuite pardon, et les taux d'attractivité entre établissements sous DAF, ne prenant pas en compte que la prise en charge en clinique privée à but lucratif. Donc tout ça sont les sources qui sont utilisées au niveau des caisses de l'assurance maladie de 2012. Un taux de précarité où ça permet donc une meilleure approche du besoin de santé, et ces critères donc sont issus donc d'études régionales, j'ai dit tout à l'heure, et c'est un coefficient qui est calculé et qui s'applique à la population, pondéré déjà par les flux, par les taux de flux d'attractivité et de fuite pour chacune des territoires. Et enfin, une couverture sur le besoin de la population à 20%, et donc avec ce coefficient qui est appliqué en moyenne, voyez, à 17%, et donc ça permet, en fonction du positionnement de chacun des territoires, d'appliquer ce coefficient à la population. Donc, elle est modulée par cet écart. Ceci, vous avez un petit exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui explique la manière dont c'est fait. Pour la couverture du besoin de la population à partir des résultats obtenus, on a donc calculé le besoin potentiel de financement sur le ratio DAF par population de l'établissement, puis une DAF cible, et on détermine par rapport à l'écart moyen. Donc, même chose, je donne un petit exemple, nous n'allons pas détailler ici, mais que vous aurez dans les documents que vous pourrez télécharger. Pour l'étendue du secteur, même chose, hein, chaque secteur est attaché à une superficie exprimée en kilomètres carrés et une DAF moyenne par kilomètre carré calculée pour la dotation. Et donc, pour chaque établissement, on va recalculer sa DAF au kilomètre carré qui est intéressante. Même chose, je donne un petit exemple de correction telle qu'elle est appliquée. En élément de discussion, n'ont pas été prises en compte des questions posées par des établissements sous DAF non sectorisé, donc il n'y a pas de cas en Midi-Pyrénées, mais la question se présentera ailleurs, avec évidemment des PSPH non sectorisés, par exemple. Il y a aussi un débat sur les kilomètres carrés, étant donné que certains établissements, comme le CHU de Toulouse, effectuent des soins au bénéfice de patients en théorie pris en charge dans des superficies d'établissements sectorisés, voilà, ou bien l'exemple du CH Sainte-Marie de Rodez, qui prend en charge des patients sous contrainte du secteur d'à côté, d'où application de coefficients, etc. Le retour de l'ARS, c'est-à-dire ce surcroît d'activité extrasectorielle, se trouve déjà valorisé dans l'activité et donc ne sera pas pris en compte dans le cas du compartiment étendu secteur. Des discussions se poursuivent pour le moment concernant une éventuelle pondération sur des équipements existants, mais pour l'instant, l'ARS indique que cette pondération est difficile à mettre en œuvre. Pour conclure, au niveau de cette région, chaque compartiment aboutit ainsi à une DAF cible. Chaque compartiment est ensuite pondéré. En 2014, s'est introduite la modulation à 2% de l'écart, avec évidemment un effet redistributif qui apparaît anormalement important pour certains établissements. Donc, les mouvements économiques, en d'autres termes, engagés à moyen terme, sont très lourds, voire catastrophiques pour plusieurs établissements. Et donc, bien des avancées significatives ont pu être obtenues, certains points de la méthodologie demeurent encore contestés par certains établissements. Voilà pour cette région, et donc en l'absence de référence à un modèle méthodologique national unique, ben évidemment, ça demeure évidemment un problème pour cette région pour aller plus loin. Troisième région, mais cette fois-ci je vais aller plus vite, sur la Bretagne. Les principes de redistribution, c'est utiliser une revalorisation annuelle de l'ADAF régionale pour une péréquation. Donc c'est la partie donc, de revalorisation ici. L'ARS calcule un indice composite pour répartir cette enveloppe annuelle avec un tiers pour la population, un tiers pour la file active et un tiers pour l'activité, en se rapportant sur les données de la DAF N-2, et cela permet de mettre en évidence les établissements sur- ou sous-dotés par comparaison à la moyenne. Les établissements sous-dotés ont une répartition de l'enveloppe régionale calculée en deux temps. Si leur DAF est entre 90% et 100% de la DAF cible, ils touchent 11% de l'écart. Si la DAF est inférieure à 90% de la DAF cible, c'est 55% de l'écart plus 11% du nouvel écart. Mais on n'a pas d'explication sur l'utilisation de ces pourcentages. Les établissements surdotés conservent leur DAF sans revalorisation. Donc, plafond. Pour la Champagne-Ardenne, les principes de redistribution. La RS avait relancé un chantier de réduction des inégalités il y a plus d'un an, avec des critères qui ont évolué au fil des temps. D'abord, c'était sur base assez simple, un coefficient 1 pour ce qui est hospitalisation complète, 1,01 pour l'ambulatoire, 1,05 pour l'hospitalisation à temps partiel. Puis sur des bases plus complexes, avec identification de deux enveloppes cibles, une pour l'extra avec un objectif de 30% des crédits, une pour l'intra avec un objectif de 70% des crédits, avec évidemment une remarque, c'est que le coefficient semble beaucoup plus favorable à l'ambulatoire et les actes étant surcotés par rapport à la journée d'hospitalisation complète. Malgré ces correctifs destinés à écraser les écarts et privilégiant les établissements qui avaient vu développer l'extra-hospitalier, ces derniers sont restés importants pour 5 hôpitaux concernés par l'étude, plus 4 millions pour l'établissement le plus doté par rapport à la dotation cible, moins 2 millions pour chacun des deux établissements les moins dotés et les deux derniers étant relativement moins touchés. Cette étude n'a toutefois pas été utilisée pour la répartition de la DAF régionale en 2014 et donc communication évidemment réalisée par l'ARS, méthode de lissage à trouver, donc il y a encore du travail qui doit être fait à ce niveau-là. Pour le Languedoc-Roussillon, on redescend dans le sud avec la troisième région du sud. Les enjeux de la démarche étaient aussi, mêmes enjeux, réduire les inégalités, reconnaître l'activité réalisée, accompagner les modifications de consommation et d'évolution démographique et mettre en place un dialogue performance avec les établissements de psychiatrie en concertation. Le modèle d'action concerté des effets des revenus maîtrisés, c'est une démarche concertée, avec demande des fédérations, mise en place d'un groupe de travail, avec les techniciens, les DAF, les contrôleurs de gestion, les spécialistes de l'ARS, lancement d'une démarche en 2012, concertation finale autour des différents scénarios ADESM, FHF, établissement en février 2013. En démarche expérimentale, limitée dans le temps et en impact, disposition transitoire sur 3 ans dans l'attente d'un nouveau modèle de financement national. Là aussi, on attend évidemment une démarche nationale, dispositif soumis à évaluation avec un taux d'application de 5% annuel sur les 3 ans. Donc, vous voyez que les pourcentages augmentent sur ces 3 régions, est à 0,32, 2% et ici 5%. Dispositif d'accompagnement contractuel sur les investissements. En outil de modulation, c'est toujours le même principe d'une capitalisation des impacts des différents critères, un outil composite multicritères, donc vous voyez, pour un besoin populationnel à 30%, la superficie qui est introduite aussi, les activités en séjour, les files actives en hospitalisation complète et temps partiel à 25% et une file active en vue à 10%. Avec évidemment des pistes non explorées telles que le retraitement comptable qui est aujourd'hui une hypothèse qui était écartée, jugée trop historique et pas suffisamment incitative. Une modulation par rapport à la population, prendre en compte les besoins, la mise en place d'une nouvelle méthodologie pour estimer la réelle population de l'établissement se basant sur la provenance des patients et ils obtiennent ainsi un nombre de patients du secteur pris en charge dans un autre établissement, qu'il soit public ou privé, à soustraire dans un sens ou dans l'autre, et le nombre de patients pris en charge par l'établissement mais domiciliés hors secteur à ajouter cette fois-ci. Ensuite, certaines variables doivent être prises en compte pour pondérer la population de chaque établissement, le taux de précarité qui est de nouveau utilisé, comme la région voisine, et le taux d'hospitalisation sous contrainte ou sans consentement qui sont aussi utilisés pour pondérer les moyens. Avec chaque fois des discussions qui ont lieu sur ces hypothèses, donc une pratique existante pour l'allocation des crédits de fin d'année, détermination du besoin potentiel de financement par ce ratio moyen DAF par habitant et une pondération sur les taux d'hospitalisation et taux de précarité. C'est une hypothèse qui était favorablement accueillie de pouvoir tenir compte justement de ces taux de fuite, de ces taux d'attractivité, de ces taux de précarité. Avec évidemment chaque fois une analyse avantages et inconvénients. Sur la modulation par rapport au séjour, même chose. Principe, c'est prendre en compte l'activité de l'établissement se basant bien sur le nombre de séjours, sur les différents types de prise en charge, mais en méthodologie avec une pondération. 1, vous voyez, pour la prise en charge temps plein, 0,50 pour la prise en charge temps partiel, 0,25 pour le CATTP, ici il y a une rubrique complémentaire, et 0,1 pour les charges ambulatoires, et le tout divisé par la DMS. en fonction du taux d'hospitalisation sous contrainte ou sans consentement, ou si une modulation par rapport à la moyenne régionale. De nouveau, une discussion avec les avantages qui sont pris et les inconvénients qui découlent de cette hypothèse. Donc, c'est intéressant à chaque fois de voir quand il y a eu des analyses à ce niveau-là. Sur l'hypothèse de l'activité estimée en journée, même chose, on retrouve les mêmes catégories, temps plein, temps partiel, CTTP ambulatoire, et donc une pondération ramenée au taux d'hospitalisation sous contrainte ou sans consentement. Cette hypothèse-ci a été écartée par les établissements avec des inconvénients trop importants par rapport à l'avantage. En modulation par rapport à la file active d'hospitalisation, le principe étant de bien prendre en compte l'activité de l'établissement se basant sur sa file active totale. La méthodologie, c'est donc, comme on l'a vu précédemment, une pondération de la file active en fonction des taux d'hospitalisation sous contrainte ou sans consentement. Et donc, ça nous donne une modulation par rapport à la moyenne régionale du taux. Et donc, le principe, c'est évidemment, pour la file active ambulatoire, de ne se baser que sur la file active d'hospitalisation. C'était un critère un peu lourd. Voilà pourquoi il rajoute cette file active ambulatoire. Toutefois, il était choisi de bien séparer la file active hospitalisation complète temps partiel de la file active ambulatoire, avec des prises en charge ambulatoires n'ayant pas la même lourdeur que celle en hospitalisation. Et pour cela, il se base sur le nombre de patients distincts dont on retranche la file active complète et temps partiel. C'est parfois un peu technique comme méthode, et se différencier un peu d'une région à l'autre. Avec de nouveau une analyse avantage-inconvénient, mais une hypothèse qui était accueillie favorablement par les établissements avec une demande de valorisation de l'activité ambulatoire. C'est vrai qu'elle était cotée à 0,1, c'était un peu faible. Sur la modulation par rapport à la superficie maintenant, c'est un principe de rapprocher la notion de ruralité. Donc, de nouveau, ils vont se baser sur la sectorisation en vigueur. On détermine la superficie couverte par chaque établissement avec un coût en euros au mètre carré moyen. On détermine une DAF cible de chaque établissement. De nouveau, avantage inconvénient, c'est une hypothèse qui est étudiée à la demande des établissements, donc elle est évidemment intéressante pour eux, mais avec un niveau de finesse de l'indicateur qui n'est pas toujours suffisante. Dans la poursuite de la démarche, évidemment, c'est une amélioration du modèle. On en a vu un peu les failles et les difficultés. Donc, modèle non figé, soumis à évaluation pour amélioration, avec toute une série d'axes de poursuite et d'amélioration qui ont été cités et qu'ils veulent mettre en lien avec l'étude nationale des coûts en psychiatrie dont Olivier nous parlera tout à l'heure. Pour la Lorraine, allez plus vite, mais ça avance vite. Donc, grand principe, réallocation, refonte de sectorisation, mise en place d'une instance de concertation, avec un principe de réallocation pour que ça prenne bien toute sa place au sein de la santé mentale. Ça suppose évidemment une confiance réciproque entre les établissements, parce qu'il y a toujours des gagnants et des perdants, donc une éthique forte et un travail de collaboration et d'échange, et enfin, une instance qui regrouperait tous les professionnels pour pouvoir avancer. La méthodologie, on parle de l'enveloppe DAF à moduler, on enlève les financements qu'il faudra neutraliser, et puis on a une DAF qu'ils répartissent en enveloppe adulte, en enveloppe enfant, et puis les critères qui sont utilisés, population, file active et production, à ce niveau-là. Donc je vais avancer puisque c'est la même chose que je viens de dire. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des critères, il y a 3 scénarios qui sont présentés, des scénarios simples, et puis des scénarios de plus en plus compliqués, et nous allons voir que c'est chaque fois le scénario le plus fin qui était retenu. Je vais juste citer ici le premier et les autres, j'irai plus vite, mais vous voyez, distinction entre DAF adulte et enfant, alors que là, il n'y a pas de distinction. Maintien de la DAF pour le HP de mettre au niveau de 2013, répartition avec un isolement des enveloppes, etc. Donc vous voyez, ils essayent de faire une méthode plus fine. Même chose sur les critères pour la file active pondérée, c'est le scénario le plus fin qui est retenu. Pour les critères au niveau de l'unité de production, même chose, c'est les critères plus fins qui chaque fois ont été retenus avec des clés de répartition entre l'hospitalisation temps complète, temps partiel et ambulatoire. Donc là, ils ont fait des enveloppes par type d'activité. Qui est une remarque particulière par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. On parlait de l'activité. Ici, ils ont fait des enveloppes. C'est à l'intérieur des enveloppes qu'ils redistribuent. Ça nous donne ici un peu, établissement par établissement, où chacun se situe, avec quelques grosses disparités sur la solution après modulation sur le critère population. Vous voyez que ça fait des écarts extrêmement importants. D'autres sont plus proches d'une moyenne quand on prend la situation sur la modulation au critère production, par exemple, les points verts. Vous voyez qu'il y a un peu moins d'écarts, même si de temps en temps, il y a encore des gros écarts. Si on les module et qu'on les pondère, voilà un peu ce que ça donne en écart. Donc là, on voit qu'il y a une fourchette de plus ou moins 5% maximum. En termes de traitement, l'établissement gagnant, lorsqu'il gagne 100, en fait, on va lui en donner 50. Et celui qui est perdant de 100, on va lui dire, on va vous en enlever 50 pour financer les 50 qu'on donne évidemment en face. Les 50 restants, vous allez les garder, mais vous devrez les utiliser pour un projet pouvant bénéficier spécial rentrant dans la politique régionale, voilà, avec une enveloppe fléchée pour pouvoir suivre ce que l'on a fait à cela. Donc, c'est une idée intéressante. Pour le Nord-Pas-de-Calais, il y en a encore deux, ça va aller vite maintenant. Nord-Pas-de-Calais, les données sont issues donc de la SAE, c'est une méthode qui est utilisée pour l'exercice 2012. Même coefficient du coût relatif aux données, donc comme pour les autres établissements, les autres régions, un coefficient calculé à partir des retraitements comptables et une activité pondérée, qui est ramenée à la DAF, plus les forfaits journaliers, moins les crédits reconductibles, donc c'est les mêmes calculs. Voilà un peu ce que ça a donné pour 2011 et pour 2012, avec une enveloppe globale, vous voyez quand même, ramenée à l'activité qui a diminué, et on voit que c'est les CHU qui ont augmenté, les autres catégories ont diminué. Ceci nous positionne les établissements et PSM de la région par rapport aux autres. Et ils ont appliqué, à un moment donné, cette méthode de restitution partielle du gel qu'ils avaient fait en 2012. Donc voici un peu les différents éléments. Mais quand on essayait de trouver une logique, vous voyez, j'ai essayé de voir s'il y avait une corrélation entre les DAF et le dégel. Manifestement, ça n'est pas très fort. Donc, comme on dit, une bonne intention, mais on n'a pas eu beaucoup d'explications. Provence, région PACA, même chose, les mêmes enjeux, réduire les inégalités, poursuivre évidemment, amplifier, affiner les politiques de péréquation avec des enveloppes dédiées à la péréquation en psychiatrie, soumettre le financement à l'activité effectivement réalisée, c'est les mêmes motivations, inciter financièrement les établissements à développer des alternatives, donc là, manifestement, c'est bien utilisé comme outil de conduite de la politique médicale. Et enfin, allocation du financement de nouveaux projets pour utilisation, évidemment, de références régionales, recettes activités comme référence activité sur des projets de développement pour l'activité extra-hospitalière et des projets d'établissement avec des ratios recettes population inférieures à la moyenne régionale. Donc, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, vous pourrez les découvrir, mais chaque fois, on explique évidemment les hypothèses qui sont utilisées à ce niveau-là. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans les hypothèses qui sont utilisées pour conditionner le bénéfice de la péréquation, au début, ils ont mis pour 2011 que le ratio des dépenses en hospitalisation complète devait être inférieur à 75%, et puis 70%, 60% pour 2013, 55% pour 2014. Donc là aussi, on voit que pour pouvoir bénéficier d'une correction, il faut se mettre dans cette perspective de transfert vers l'extra-hospitalier. Et pour la suite, donc de nouveaux groupes de travail qui doivent travailler pour essayer d'améliorer toute une série d'éléments, d'affiner les méthodes. Voilà ce que l'on peut dire sur la comparaison de cette région avec, et ce sera notre point de départ pour la deuxième partie de la présentation, en résumé, tous les critères qui sont utilisés avec les régions qu'ils ont utilisées, leur pondération, qui sont chaque fois reprises à ce niveau-là. Et donc ici, une petite synthèse sur les coefficients de pondération pour les activités. Voilà, ça c'est la fin de la première partie.
Ça va ? Merci. C'était peut-être un peu long et fastidieux, mais en même temps, il faut rentrer dans les détails pour se rendre compte, à travers ces expériences régionales, de la complexité de l'exercice, mais en même temps de l'urgence de faire quelque chose au niveau national. Sinon, les politiques régionales vont accroître leur divergence. On trouve des points communs, mais il y a aussi des choix qui appartiennent à certaines ARS. D'où la mobilisation du groupe finance, donc le groupe des directeurs financiers de la DESM, sur une proposition pour en sortir. Comment enfin sortir de la DAF de manière uniforme au niveau national, en prenant en compte le paysage VAP, mais également le paysage en cours de mutation dans certaines régions de France. Voilà le contexte dans lequel aujourd'hui donc Gaël Leloup nous présente les travaux de ce groupe.
Voilà, donc nous allons faire sans duo, nous allons nous partager pour ne pas que ma voix devienne trop monotone. Donc, quelques rappels pour lancer, mais très rapide, parce qu'on a eu beaucoup de rappels hier, donc je pense que c'est intéressant. Donc, quand on a préparé, on rebondissait sur les mêmes éléments, sur les missions des établissements participant au service public de santé mentale, sur la sectorisation, sur la politique nationale, sur les rôles de l'ARS, mais vous allez voir, je vais voir très vite. Ce qui est important, c'est qu'avant de déterminer comment on finance, ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on veut financer. Hein? Donc, se mettre dans cette perspective, évidemment, politique. Donc les missions, je ne vais pas les rappeler, elles ont été rappelées hier. Ce qui est important, c'est que le secteur est la base de la démarche. Le secteur, dans le sens large qu'on l'a expliqué hier, ses frontières ne sont donc pas immuables, mais il vaut mieux parler évidemment de territoire, c'est ce qu'on en a dit hier. La sectorisation, c'est un besoin de réactualisation vu des nouvelles données populationnelles. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on lit à travers ces quelques phrases l'importance des mutations en cours à ce niveau-là. Quels objectifs, quelles priorités, quelles stratégies au niveau national? Eh bien, on a entendu hier, à travers la loi, qu'il y a toute une série de pistes et de réponses. Ce qui est important en termes de réflexion, c'est que les lois passent et on voit que sur l'actuel financement DAF, qui existe depuis de nombreuses années, on a déjà eu plusieurs lois. Donc, ça veut dire attention, si on fait évidemment un financement, il faut qu'il soit pertinent parce qu'il va devoir perdurer sur plusieurs années. Donc, je rappelle ici le projet de la santé sur ses grands thèmes, service territorial de santé au public, avec ses cinq grands objectifs, c'était important, avec rassembler les acteurs de la santé autour d'une stratégie partagée. C'est ce qu'on peut déduire de ce qui était résumé, de ce qui était dit hier. Ce qui est important de nouveau, c'est que le financement doit venir en soutien de politique de santé et donc en est son outil de pilotage et pas l'inverse. Ce n'est pas du financement qu'on doit déduire une politique de santé. Le rôle des ARS, même questionnement, qu'est-ce qu'on attend des ARS, quel rôle doivent-elles jouer, quelle autonomie pour les établissements. Et de nouveau, on retrouve dans ce projet de loi de santé publique, service territorial de santé au public, des réponses sur le rôle que doivent jouer les ARS à ce niveau-là. Je pense que dans nos questions, il faudra aller plus loin, mais je pense qu'on trouve déjà des missions qui sont clarifiées au niveau des agences régionales. De nouveau, au niveau régional, le financement doit être un outil de répartition des moyens au service territorial de santé au public. Quelques données macroéconomiques que nous allons vous passer maintenant et que Gaël va vous expliciter.
Oui, alors l'idée c'était de donner quelques éléments de repère. Hein. Donc successivement, je vais vous présenter les activités et coûts de la Nation 2012. Je n'ai pas encore eu le temps de récupérer les données RIMP 2013 et puis les coûts RTC 2013. Je ne pense pas que les bases interrégionales soient déjà disponibles. Ensuite, un essai de mesure des coûts non décrits en ambulatoire et des coûts des soins sans consentement en hospitalisation à temps plein, pour donner là aussi des éléments de repère, et puis un rappel de l'échelle relative des coûts par forme d'activité, puisqu'on a vu, au gré des différentes présentations et de ce qui se fait dans plusieurs régions, que la nécessité de se doter d'un indice composite d'activité, enfin, ou d'un pseudo point ESA en psychiatrie est visiblement nécessaire dans les différentes modélisations. Alors, sur les coûts, qu'est-ce que j'ai mis en base là? Les différentes formes d'activité, enfin, la nature de prise en charge, temps complet, temps partiel, ambulatoire, ensuite les formes d'activité. En hospitalisation à temps plein, c'est simple, hein, il y a pratiquement 18 millions de journées au bénéfice de 307 000 patients, soit une DMH annuelle à 58 jours, Le coût moyen extrapolé, je me suis appuyé sur mes études réalisées, donc sur un échantillon d'établissements, 3 milliards d'euros de dépenses publiques, hein, on avait en 2010 sur 59 établissements. Bon, effectivement, je peux pointer, tu as raison Louis, ce sera mieux, ce sera plus clair. Donc voilà, 317 euros, ça c'est un coût extrapolé à partir de cette étude. Et derrière, si je multiplie le coût par le nombre d'unités d'œuvre, je sais qu'on a dépensé, bon, c'est une extrapolation, hein, mais à peu près donc 5,6 milliards pour l'hospitalisation à temps plein au niveau de la nation. Donc voilà, pour toutes c'est fait pour toutes les formes d'activité. Ça permet au passage de regarder, en CMP, en moyenne, un patient bénéficie de 10 actes par an, bon, pour un coût complet à 90 euros. Pareil pour les enfants. Donc, je passe vite, hein, parce que vous aurez les éléments. Donc ça permet de conclure que globalement, hein, sur un coût complet extrapolé à 9,5 milliards, hors activité spécifique et y compris recettes du titre 2, et pour une DAF à 9,4 milliards, en ordre de grandeur, c'est pas délirant, c'est assez cohérent. Donc ce qui convient quand même de souligner en point de repère qui paraît quand même assez structurant, c'est que tout âge confondu, hein, le temps complet représente quand même 2/3 des coûts. Donc chez les enfants, c'est moins, c'est que 19%, mais chez les adultes, c'est quand même 76%. Donc on est très loin des modèles qu'on idéalise et de ce qu'on voudrait faire. Et bon, c'est un point de départ. L'objectif, c'était de donner des points de repère. Alors, autre point de repère, moi j'ai toujours été surpris du coût de nos activités ambulatoires. Donc là, j'ai étudié cette diapo des coûts en ambulatoire incompatibles avec ceux de la nomenclature générale des actes. Alors, donc là, je rappelle ce qu'on a plus haut, hein, le coût adulte-enfant par forme d'activité. Hein, donc, l'essentiel de l'activité ambulatoire est concentré sur le CMP. Hein, donc, c'est 90 euros pour un adulte, 130 euros pour un enfant. Et ça, c'est tout type d'intervenant. Hein, c'est pas derrière, c'est dans le retraitement comptable, on calcule pas le coût d'un acte médical, d'un coût psychologue. Non, c'est tout intervenant confondu. Alors, pour info, le tarif sécu d'une consultation pour les psychiatres est de 37 euros. Majoré forfaitement en secteur 1 de 2,70 euros, soit 39,70 euros par consulte. Donc juste pour m'amuser, hein, je calculais à ce tarif, pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 124 KE, il faudrait qu'un médecin produise 16 actes par jour, soit 2 patients par heure sur une journée de 8 heures et sur la base de 200 jours travaillés par an. Et j'indique que voilà, le coût d'un acte en CMP adulte, tout professionnel de santé, dont un tiers sont des médecins, est de 90 euros. Alors, ça veut dire que l'ambulatoire ne porte pas que des activités de consultation. Alors, comment essayer d'évaluer le coût de ce qui n'est pas de l'activité pure et dure ? Ce serait de dire quelles seraient les recettes théoriques sur ambulatoire à partir de la production de soins médicales, non médicales, et d'un tarif. Donc là, en nomenclature NG1P, on a des tarifs pour les médecins. Pour les non-médecins, j'ai pris une hypothèse simpliste, un peu bébête, mais je me dis, je prends le tarif CNPSI plus MPC divisé par deux, parce que un personnel non médical coûte à peu près deux fois moins cher qu'un médecin. C'est assez grossier, mais bon, ça donne quand même des ordres de grandeur. Et donc, sur cette base-là, on aurait des recettes théoriques donc pas tout à fait un demi-milliard, pour un coût réel constaté d'1,7 milliard. Donc il y a 1,2 milliard qui participent à d'autres activités, ce qui représente aujourd'hui 13% des coûts, soit 18 euros per capita. Et si on musclait le jeu et que la part du temps complet dans les coûts passe à 50%, ces coûts pourraient représenter jusqu'à 20% des ressources du champ psychiatrique, soit 27 euros per capita. Je pense que derrière ces écarts de coûts, évidemment, on a un problème de productivité, il ne faut pas se voiler la face, pour partie, mais je pense qu'il y a aussi surtout de la prévention, des actes dans la communauté, enfin plein de choses qui ne sont pas mesurées au travers du RINP. Et puis, pour finir de balayer parce que là, l'essai, quand même, c'est d'essayer de voir ce qui pourrait être financé dans une approche per capita. C'est côté soins sans consentement, en hospitalisation à temps plein. J'évalue rapidement, hein, sur la base des coûts moyens, à peu près à 1 milliard, un peu plus d'1 milliard, les coûts dédiés aux soins sans consentement, ce qui représente 11% aujourd'hui des ressources du champ psychiatrique. J'ai fait ça de manière assez bébête, hein. J'ai pris le volume de soins sans consentement multiplié par le coût d'une journée. C'est bébête, pourquoi ? Parce que je pense qu'une journée en soins sans consentement est peut-être un peu plus chère qu'une journée en soins consentis. Il y a une intensité de prise en charge, à mon avis, qui est un peu plus élevée, mais on n'a pas d'éléments pour le calculer. Donc là, j'ai fait ça un peu, une fois de plus, pour donner des éléments de repère. Je rappelle que dans l'étude de parangonnage du retraitement comptable 2010, j'avais tenté, hein, de définir un indice agrégé d'activité en psychiatrie. En s'appuyant sur les coûts. Hein. Donc, moi, je n'ai pas retenu 1, mais 100 pour l'hospitalisation à temps plein, et puis après en relatif. Voilà. C'est vrai que ça place le CMP à 28. Alors, quand je vois 0,10, ça m'horrifie, parce que c'est sous-valorisé l'ambulatoire que de le mettre à 0,10. Donc, minimum, il faut le mettre à 28 pour les adultes, et puis 41 pour les enfants. Et encore, ça, c'est, si on veut après développer une incitation politique à le faire, on peut augmenter un peu. Voilà. Bon, c'était les éléments donc, de repères que je voulais vous donner avant de repasser la parole à Louis pour justement maintenant passer donc chacune des variables mobilisées dans les modèles régionaux au scanner et notamment voir si ça répond ou pas aux enjeux de la nouvelle loi. 10 minutes. C'est impossible.
Oui. Donc rapidement, ça je voulais présenter donc en avance. Donc l'objectif, comme vient de dire Gaël, c'est des variables au service des objectifs. Nous allons donc reprendre chacune de ces variables et en essayant d'en avoir une réflexion à partager, et c'est là que les réactions de la salle vont être importantes tout à l'heure, pour essayer d'en mesurer un peu les enjeux stratégiques de chacune de ces variables. Nous avons aussi commencé par classer ce qu'on appelle les variables principales, qui sont la mesure du besoin par rapport aux variables correctives à intégrer, évidemment, pour permettre de tenir compte de singularités ou de situations atypiques. Donc, au niveau de la population, l'objectif stratégique, c'est d'inciter, excusez-moi, une petite faute, à la prise en charge de toute la population à la prévention. On voit les avantages, les données sont disponibles, elles sont simples, elles sont stables dans le temps, elles permettent des comparaisons internationales. L'inconvénient, c'est qu'elles ne tiennent pas compte des spécificités de la population et induit donc des inégalités de répartition de moyens. Donc, ça nécessite des remises à jour sur la répartition des quartiers aussi pour certains territoires et pas d'incitation au relevé exhaustif d'activité. Donc, ça nécessite aussi, quand on parle de territoire, de définir des accords de collaboration entre les cliniques privées sur un territoire ou comment on répartit en alternative l'enveloppe financière entre les acteurs d'un territoire. En introduisant des déterminants sociodémographiques, donc en corrigeant, comme on l'a vu dans les régions, dans la première partie, ça permettrait de prendre en compte les situations précarisées de la population et la part qui ne s'exprime pas. Donc, l'avantage, c'est qu'il est bien une mesure du besoin potentiel de santé. Je rappelle aux études précédentes qui le démontrent. Elle permet de tenir compte de déterminants sociodémographiques impactant la santé mentale et elle corrige la variable population de ses spécificités. L'inconvénient, de nouveau, c'est que ça nécessite la remise à jour des répartitions des quartiers pour certains territoires pour aller le calculer précisément. Et la démarche doit donc être affinée pour tenir compte de l'offre privée sur certains territoires. Et il n'y a pas d'incitation au relevé exhaustif si on ne prenait que ce critère-là. C'est évident que chacune des variables présentées ont un avantage quand on les utilise partiellement, mais quand on voudrait les utiliser à 100%, ce qui n'est pas le cas, et on l'a vu nulle part, présente alors des inconvénients majeurs. Au niveau de la file active, l'objectif stratégique, c'est d'établir un lien entre la population en demande, en prise en charge, en santé mentale et l'activité, et donc permet d'inciter à atteindre un optimum. C'est donc une mesure de la demande exprimée. C'est une mesure simple, elle est rapide, c'est un bon indicateur du service aux patients, c'est un indicateur autorégulateur, ça permet une valorisation du recueil de l'activité et c'est une approche du besoin populationnel. Il y a quelques inconvénients si on n'utilisait que la file active, c'est que d'une part, elle nécessite de régler des prises en charge multisectorielles, elle nécessite la remise à jour de la répartition des quartiers, c'est toujours le même critère, la même remarque, le même inconvénient, et n'exprime le besoin de la population que si l'offre est suffisante. Donc, comment doivent être corrigés les monoconsultants, par exemple? Ce sont des questions qu'il faut aussi introduire en fonction du niveau où on va utiliser ce critère.
Alors, s'agissant de l'activité, on n'a pas le temps, je ne vais pas tout lire. L'objectif, c'est d'améliorer évidemment donc, notre productivité. On pourrait envisager une politique un pilotage par les prix. Ça présente un certain nombre d'avantages. Je pense qu'il faut s'appuyer sur notamment une sorte de point ISA, ça me paraît assez évident. Je ne sais pas si on l'a identifié, mais je ne suis pas certain, comme je l'ai vu dans certains modèles, que ce soit pertinent de survaloriser l'activité de soins sans consentement au risque de l'inciter plus que de la freiner. Oui, effectivement, on est dans une logique de production avec encouragement à la suractivité. Je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on fasse très attention sur ce compartiment activité, à ce que ce soit pas que ça n'engendre pas une inflation d'activité. Ça peut freiner effectivement la prévention, je le vois là. Est-ce que c'est adapté à des pathologies chroniques ? Effectivement, je pense qu'il faudra intégrer ce qu'on a peu vu d'ailleurs dans les différents modèles, une notion de parcours. Je pense que, par exemple, on pourrait envisager de survaloriser l'acte qui intervient immédiatement, enfin, dans la semaine qui suit une séquence d'hospitalisation. Je pense qu'il faut réfléchir à des choses comme ça. Mais bon, ça veut dire qu'il faut avoir déjà dégagé des consensus de bonnes pratiques, ce qui n'est pas évident. Sur les financements historiques. Oui, tous les modèles prennent en compte les financements historiques. Ça nous paraît quelque chose de pertinent parce que ça atténue les effets d'un changement de méthode de financement. D'autant plus que je suis assez convaincu que les écarts de financement aujourd'hui tiennent aussi à des écarts de taux d'équipement. Et si on réduit les financements d'un établissement, on ne peut pas facilement moduler le cycle de la planification de l'hospice complète. On est sur du 25 ans. Un financement annuel peut-il corriger comme ça des erreurs de planification? Parce que on ne peut pas les appeler autrement. C'est ça qui aujourd'hui génère des écarts de coûts importants entre nos régions et nos établissements. C'est à mon avis, c'est ça. L'inconvénient, donc, par contre, c'est que ça retarde l'équité du modèle de financement. Les MIG, bah évidemment, pour encourager donc des actions spécifiques prioritaires qui sont dans le plan national de santé mentale, dans le plan régional, soutenir des projets innovants. Bon, l'avantage, on connaît ça. Les inconvénients, ça peut créer des files d'attente, ça maintient la subjectivité. Ça reste aujourd'hui marginal dans le modèle de financement. On est, je crois, à 2,5%. C'est peut-être mal identifié, mal évalué, mais max, je pense que ça n'excédera pas 5%. Les molécules onéreuses, on se questionne sur la pertinence de ce compartiment. Ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque ensemble, je ne vais pas m'étendre là-dessus. La géographie, on a vu que beaucoup de modèles retenaient la géographie pour tenir compte des spécificités de certains territoires. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de méthode et d'outils répondant vraiment à cette problématique. Ça n'a pas été utilisé, mais il existe en source d'ATAR les régions montagneuses. Est-ce que ça pourrait être un moyen de bon. Parce qu'à part le kilomètre carré, effectivement, on n'a pas vu grand-chose. Voilà, Louis, je te laisse conclure.
Donc, aucune variable de répartition n'est satisfaisante en soi, c'est ce qu'on voit évidemment. Et donc, c'est dans un case mix qui paraît intéressant à déterminer évidemment un bon équilibre entre chacune des variables qui seraient utilisées à ce niveau-là, de telle manière à tirer le maximum d'avantages de la variable et à minimiser leurs inconvénients. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Bon, en étape préliminaire à toute répartition, ben, c'est évidemment de réfléchir en fonction du niveau de répartition, si on est au niveau national, si au niveau régional ou si au niveau d'un territoire. Il faudra être de plus en plus précis. Neutralisation de financement, comme on l'a vu dans les exemples régionaux tout à l'heure. Il faudra aussi prendre en compte les recettes du titre 2. Je pense que ça, c'est une bonne mesure préliminaire. Et d'autres correctifs nécessaires au niveau territoire pour tenir compte des taux de fuite, des recrutements, régions, territoires, etc. Je pense que c'est du bon sens. En proposition de variables et leur pondération pour la répartition de la DAF, on pourrait, avec le critère géographique d'accès à distance, reprendre des valeurs de dépenses historiques et de files actives calculées, puisque la file active est une donnée historique, par rapport à des valeurs actuelles qui est l'activité et la file active telle qu'elle est mesurée. Donc ici, c'est ce qui découle des facteurs géopopulationnels, entre eux, c'est ce que j'appelle la file active calculée. Sur les choix des clés, ce qui est important, c'est bien respecter, et dans le débat, ceci c'est des propositions, mais c'est à titre exemplatif, de respecter des proportions correctes pour que chacune des variables joue bien son rôle stratégique qu'elle a joué sans en avoir les inconvénients. Enfin, ce qui est important aussi, c'est quand on fait une pondération, c'est qu'on voit bien une évolution. De nouveau, ceci, c'est à titre purement d'exemple, mais il est clair qu'en donnant aux valeurs historiques un pourcentage important au début et tout doucement faire un pilotage pour le diminuer, pour lui donner une valeur de nouveau stratégique correcte dans le système, je pense que ça fait partie, entre autres, des outils de pilotage que le niveau qui va l'appliquer va pouvoir utiliser. Pour progresser, il s'agit évidemment d'une approche globale, dont le regard singulier s'accommode mal. J'entends souvent de dire, oui, mais l'année dernière, j'ai eu un patient qui m'a occasionné beaucoup de... Bon, c'est une approche de financement global et pas du patient X qui rentre dans telle unité. Donc, c'est bien comme ça qu'il faut le regarder. Il faut aussi éviter, dans les modèles, une complexification sans valeur ajoutée. Je crois que c'est important. Soyons plus pragmatiques. Vaut mieux un système opérationnel amélioré qu'un système parfait jamais mis en place. Donc le point de départ, c'est évidemment la mesure du besoin, c'est important, et on entend de plus en plus dans les débats que c'est bien le besoin qu'il faut rencontrer, donc il faut mesurer. Puisque l'activité est une variable d'ajustement, on peut partir des coûts standards, c'est ce qu'on a vu dans les conclusions tout à l'heure, et plus on approche évidemment, du territoire d'exercice, plus les variables doivent être affinées. Et ça, ça va être important pour éviter évidemment des disparités sur le terrain quand on est au niveau national ou régional. Par exemple, la file active ne doit pas être corrigée des monoconsultants. Les corrélations sont excellentes. Dès que j'arrive au niveau des secteurs, je dois absolument tenir compte des monoconsultants, par exemple. Sur les facteurs clés de succès, je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait une démarche concertée. On a vu que dans les différentes régions, là où il y a eu de la concertation, il y a eu des améliorations du système, on a pu s'exprimer, on a pu corriger, on a pu freiner, etc. Donc je pense que la concertation est importante. Ça suppose, et j'ai repris une des phrases qui a été utilisée en Lorraine, une confiance réciproque entre les établissements, une éthique forte, un travail de collaboration, avec pour seul objectif améliorer la prise en charge des populations de chaque territoire avec les moyens qui sont alloués. Et s'appuyer évidemment sur des travaux réalisés par des professionnels, la santé et notamment les travaux de la TIH, les travaux qui seraient faits dans les ARS que l'on partage. Et c'est intéressant l'étude que je vous ai présentée, mais je pense que s'il y avait pu lui donner plus de publicité, on aurait pu chacun en tirer davantage de leçons et de renseignements. Voilà ce que l'on peut, rapidement, pour essayer de rentrer dans les 10 minutes, dire sur ces deux domaines qui sont très compliqués, puisqu'on est dans des manipulations de masse, c'est technique, et la représentation n'est pas toujours facile. Merci beaucoup.
Oui, c'est en accéléré. Évidemment, on aurait envie de vous écouter pour s'imprégner plus longuement des différentes hypothèses et y contribuer longuement chacun. C'est impossible.